Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. Ça va Thomas ?
Ça va très bien. Salut Sidonie, salut à vous. Les curieux, vous pouvez évidemment, comme tous les jours, réagir pendant cette émission 3210RTL.fr ou les réseaux sociaux, La Curiosité RTL. Au programme, les travesties de l'histoire, de Jeanne d'Arc à Colette, en passant par George Sand, ces femmes qui ont choisi de vivre en homme pour rester libres.
Et puis les pouvoirs de notre voix. Pourquoi peut-on tomber amoureux d'une voix ? Comment les politiques l'utilisent pour nous convaincre avec leur discours ? Pourquoi les femmes ont une voix différente de celle des hommes ? Des questions et des réponses avec nos voix. Et tout de suite, Tchernobyl, 30 ans après.
La curiosité est un vilain défaut.
Autant qu'on puisse le savoir, l'accident survenu samedi dernier dans la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, près de Kiev, est grave. Il a fait officiellement 2 morts, mais les demandes répétées d'aide font penser aux spécialistes que la situation est sérieuse.
RTL.
Le cœur de l'un des réacteurs nucléaires a commencé à fondre. La chaleur a provoqué un incendie dans la centrale et la radioactivité continue de s'échapper puisque cette centrale n'est pas protégée.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
30 ans après, que reste-t-il de Tchernobyl ? Comment la vie a-t-elle repris son cours ? Bonsoir, Galia Ackermann.
Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste et Tchernobyl, vous connaissez bien, vous y êtes allée de nombreuses fois ?
Oui. Absolument.
Votre dernier voyage et votre premier voyage ?
J'ai commencé à aller dans les zones contaminées en 2000 et la dernière fois, c'est il n'y a pas si longtemps.
Ça a beaucoup changé en 30 ans, Tchernobyl ?
Non.
Le paysage ?
Non, non. Il n'y a rien qui a pu changer, sauf le site maintenant de la construction de cette nouvelle arche. Ça, c'est un grand chantier. Il y a eu des sites de stockage de déchets nucléaires qui ont été aussi construits autour de la centrale. Mais sinon, la vie s'est figée après cette explosion parce que toute la population a été évacuée, que la nouvelle ville de Pripyat se transforme peu à peu en une ruine. Et que les villages aussi ont été abandonnés. Donc le seul changement aussi, c'est que la nature reprend le dessus. Donc les anciens champs de kolkhoz maintenant se couvrent de jeunes pousses.
Galia Ackermann, on va se projeter 3 décennies en arrière, quelques jours ou quelques heures même avant l'accident. Juste pour comprendre, Tchernobyl, c'était une ville fermée. C'est ça, qui ne figurait pas vraiment sur les cartes, qui portait un nom de code. C'était ça, c'est la zone de Tchernobyl ?
Non, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone interdite, il y a plusieurs lieux jadis ou même maintenant habités. Le centre de cette zone, c'était une ville nouvelle qui a été construite à partir de 1970 et qui s'appelle toujours, bien que ce ne soit maintenant que une ville fantôme, Pripyat. Donc cette ville, elle a été pas une ville vraiment fermée, c'est-à-dire le KGB contrôlait assez la population parce que c'était essentiellement le personnel de la centrale et tout ce qui relève du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire en Union soviétique, était couvert de secrets. Mais ce dont vous parlez, c'est une autre cité qui s'appelait Tchernobyl 2. Oui. Et en fait, c'était une cité militaire, elle, complètement secrète, qui ne figurait sur aucune carte géographique. Et elle desservait, enfin, la population militaire et les membres de famille de cette ville, desservait un énorme radar détection précoce de missiles intercontinentaux qui a été appelé par les Occidentaux qui détestaient ce radar parce qu'il perturbait toute l'aviation civile. Oui. Ils l'appelaient le pivert russe parce que ça faisait tac, 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 tac.
Pripyat, c'est ça, on dit Pripyat, hein. Je prononce bien.
Nous, on le dit ça comme ça. Comment vous prononcez Pripyat ?
Pripyat.
Ah oui, c'est Pripyat. Pas mal. C'est pas
Tchernobyl,
mal, Sidonie, vous étiez pas loin.
Et ces environs 2600 km où des hommes et des femmes travaillent, vivent, combien sont-ils exactement ? Comment vont-ils ? On en parle dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
30 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui vit encore dans cette ville, dans cette région, qui sont ses habitants. On part à leur rencontre avec la journaliste Galia Ackermann. Galia, vous publiez Traverser Tchernobyl et vous donnez dans ce livre la parole justement à ceux qui vivent, qui travaillent encore à Tchernobyl. On a un peu de mal à l'imaginer. Ils sont nombreux. Il y a combien d'habitants ?
Écoutez, il y a deux catégories. Il y a d'une part quelques centaines de personnes, des paysans essentiellement, qui ont choisi de revenir malgré l'interdiction pour vivre dans leur propre maison, qui n'ont pas voulu abandonner leur maison, leur bout de terre, leur potager, etc., malgré la radiation. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Et maintenant, il y a deuxième chose, c'est très différent. Il y a à peu près 10 000 personnes qui travaillent dans cette zone interdite de 2 600 km² et qui habitent par intermittence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons, la personne travaille 4 jours par semaine, dort sur place, dans la vieille ville de Tchernobyl, qui est encore un endroit dont on n'a pas parlé, et repart chez elle pour un long week-end. Maintenant, vous demandez ce que font ces gens, pourquoi ils travaillent là-bas. Eh bien, je dis toujours que ce sont nos anges gardiens, parce que ce sont des personnels qui ne font pas de travail productif normal. Ils ne confectionnent pas de vêtements ou de casseroles ou ils ne cultivent pas des pommes de terre.
Ils contiennent les radiations ? C'est ça leur boulot ?
Ils contiennent tous, chacun à sa façon, parce qu'il y a plusieurs métiers, la radiation. Qui sont-ils ? Ce sont par exemple des forestiers, parce que la grande partie de cette zone est boisée. Donc il faut entretenir ces bois, il faut faire des trouées pour empêcher les incendies dans la mesure du possible, parce que chaque incendie du bois radioactif, ça relâche les radionucléides. Ensuite, il y a des pompiers qui éteignent les incendies quand ils se déclarent quand même. Et parfois, il y a aussi des incendies criminels, parce qu'il y a des gens qui font l'abattage illégal du bois et qui, pour couvrir leur forfait, mettent du feu à la forêt.
Mais qui font de l'abattage illégal du bois, c'est-à-dire qu'ils veulent voler ce bois alors qu'il est contaminé ?
Oui, et ils exportent ce bois avec la complicité de la police locale et ils le vendent ensuite à des entreprises. Donc les gens en Ukraine ou même ailleurs peuvent acheter un jour du parquet ou un placard ou un lit et ne pas savoir pourquoi elles auront quelques années plus tard un petit cancer.
Galia Ackermann, ces personnes qui travaillent sur ce site interdit, cette zone interdite de Tchernobyl, ils sont 10 000. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont confiance qu'ils prennent des risques pour leur santé ? Est-ce qu'ils en prennent vraiment d'ailleurs ?
Ils en prennent. Vous savez, le risque zéro nucléaire n'existe pas. Donc, même, il faut le comprendre, quand vous allez faire une radio, vous avez quand même un risque infime d'être irradié, d'avoir une cellule de votre corps touchée donc par un radionucléide. Mais les risques ne sont pas énormes si vous ne mangez pas, pour la zone, de nourriture contaminée, parce que aujourd'hui les niveaux de radiation dans l'air sont faibles, très faibles. Peut-être même dans certains endroits de cette zone interdite, c'est pas plus fort qu'à Kiev, par exemple.
Mais Galia Ackermann, est-ce qu'on peut boire l'eau, par exemple, l'eau du robinet dans cette zone ?
L'eau du robinet, oui, parce qu'elle a été contrôlée. Mmh. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et beaucoup de gens qui travaillent dans la zone et les gens qui y habitent le font quand même, c'est de manger ce qui pousse. Ce qui est vraiment radioactif, c'est ce qui pousse, parce D'accord. que les radionucléides sont partis dans le sol et ils s'accumulent dans les plantes et via la chaîne alimentaire chez les animaux et chez l'homme. Donc si vous mangez pendant des années la nourriture, même très faiblement contaminée, il y aura quand même une accumulation de radionucléides, comme si vous aviez à l'intérieur de votre corps une petite source de radioactivité.
Mmh. Galia Ackermann, vous avez fait des nombreux voyages à Tchernobyl, vous avez rencontré beaucoup de personnes pour votre livre Traverser Tchernobyl. Est-ce que vous vous êtes fait inviter chez les habitants de Tchernobyl ? Est-ce que vous avez dormi chez eux ? Est-ce que vous avez mangé avec eux ?
J'ai plusieurs fois mangé chez eux. Là aussi, vous savez, j'ai pas pris de mesures de protection particulière, parce que je pense que si vous voulez que les gens vous parlent à cœur ouvert, il faut se mettre à leur niveau. Vous ne pouvez pas refuser, alors qu'ils vivent en permanence dans cette zone, et vous, vous venez juste passer 2 heures avec eux, refuser leur hospitalité. Ce que j'ai toujours évité de manger, c'est encore une fois les baies et les champignons, parce qu'ils sont le plus contaminés. Les gens sont bien sûr conscients, mais vous savez, une fois, on m'a donné une réponse assez géniale. J'ai demandé une fois un groupe de vieilles femmes, comme ça, dans un village, j'ai demandé, est-ce qu'elles cueillent toujours les baies et les champignons? Et elles ont dit que, bien sûr, oui. Et j'ai dit, mais vous savez bien que ça peut être très nocif. Et une de ces vieilles femmes m'a répondu, eh ben, vous savez quoi? Tout le monde sait qu'il est très mauvais pour la santé de boire de la vodka et pourtant tout le monde en boit.
Donc il y a une bonne ambiance.
Ça, c'est la philosophie à la russe, ça, d'une certaine
façon. C'est la philosophie à la russe, mais vous savez, pensez aussi que c'est peut-être la philosophie à la française. Sur chaque paquet de cigarettes,
oui,
c'est écrit fumez-tu et les gens fument pourtant.
Galia Kerman.
Pas moi. Mais est-ce qu'il y a. Pardon. Allez-y, Sylvie.
On est loin, nous. C'est vrai, on imagine Tchernobyl une ville de zombies. Et pourtant, vous nous décrivez des bons moments aussi. Ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance dans la ville ou c'est une ville éteinte, Tchernobyl?
Non, dire une bonne ambiance, c'est quand même très exagéré. Les gens qui travaillent à Tchernobyl ne sont pas si ouverts que ça. Moi, j'ai souvent ressenti, par exemple, une fois, j'ai vécu une semaine entière à Tchernobyl. Et j'ai mangé donc à la cantine, comme tout le personnel qui travaille dans la zone. Eh bien, à table, Les gens ne parlent pas, c'est-à-dire les gens sont quand même très refermés sur eux. Et à chaque fois, il a fallu des efforts pour que j'établisse un bon contact. Les paysans, c'est plus facile, mais les travailleurs du nucléaire, c'est peut-être encore une vieille éducation soviétique qui perdure.
C'est la vie quotidienne à Tchernobyl que l'on partage, que l'on découvre dans la curiosité. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Vous écoutez RTL. Comme vous, ils sont curieux. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 22h sur RTL.
Ce soir, on explore les ruines de Tchernobyl, désertées, abîmées, contaminées il y a 30 ans avec notre invitée, la journaliste franco-russe Galia Ackerman. Parmi les gens qui vivent encore sur place et que vous avez rencontrés, Galia, à Tchernobyl, il y a les Samosioli. Que veut dire ce mot? Qui sont-ils?
Samosioli, je l'ai mentionné brièvement, sont des gens qui se sont réinstallés dans la zone interdite de leur propre gré. Généralement, sont des personnes âgées, parce que tout le monde a été évacué, mais c'est surtout pour les personnes âgées que ce départ brusque a été dramatique. Et donc, un certain nombre parmi eux, qui à l'époque avaient 50-60 ans, ont choisi de revenir. Maintenant, il n'y a plus personne moins de 80 ans.
Et vous avez rencontré Galia, Nikolai et Valentina. C'est quoi l'histoire de ce couple?
Ah, ça, c'était vraiment chouette, ce couple, parce que, comme j'ai dit, la plupart de ces gens qui sont revenus sont des paysans. Et eux, ce sont des rares personnes, des citadins, qui ont choisi quand même de ne pas abandonner la ville de Tchernobyl dont ils sont originaires. Et donc, l'histoire, c'est que ils sont revenus, ils ont obtenu le travail dans la zone et ils se sont installés aussi malgré l'interdiction, d'abord dans leur propre maison, ensuite leur maison a été détruite parce que, vous savez, il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites et même enterrées. Donc pour enterrer la radiation.
Ah, parce qu'elles étaient trop contaminées, les maisons
trop
en question.
Ça veut dire quoi, enterrer une maison?
Vous détruisez une maison, vous creusez un grand trou et vous enterrez la maison dedans et ensuite vous recouvrez de terre.
Donc ils sont revenus, pardon je vous interromps, Galia Ackerman, mais ils sont revenus. Et finalement, ils vivent même plus chez eux, quoi. C'est ça qui est étonnant dans cette histoire.
Non, mais c'est ce qui s'est passé à plusieurs habitants de Tchernobyl, de la ville de Tchernobyl, mm-hmm. petite ville provinciale. C'est que on les chassait de leur maison. Parfois, les maisons ont été détruites. Ensuite, ils occupaient la maison de quelqu'un d'autre abandonné. Ensuite, on les chassait encore une fois, etc. Et c'est tout à fait typique. C'est-à-dire, ce couple, il était déjà, quand je les ai rencontrés il y a quelques années, à leur troisième maison, ils ont dû refaire tout à partir de zéro 3 fois pour à tout prix rester à Tchernobyl.
Mais pourquoi reviennent-ils? On peut imaginer un attachement, j'entends ça dans votre explication, mais est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas un autre endroit où vivre?
Je pense que c'est surtout parce qu'on leur proposait des relogements dans des petits lotissements, où à certains on propose des appartements, mais les gens qui sont habitués à avoir une maison à eux, les gens qui sont habitués à avoir leur jardin, vivre dans la nature, etc., ça leur plaît pas. Et donc, voilà, ils ont préféré de rester là-bas. Ils vont à la pêche.
Mais ils vivent vieux ? Ils tiennent le coup ? Parce qu'on se dit, ils sont dans une zone contaminée, ils doivent mourir plus vite que les autres.
Pas nécessairement. Ça, c'est aussi un des paradoxes de cette zone. Vous savez, la radioactivité agit à titre très individuel. Il y a des résistances différentes. Et ensuite, il y a une question d'âge. Plus la personne est jeune, plus son métabolisme est rapide et plus le danger de contamination et de développer un cancer ou une autre pathologie est grande. Mais pour les personnes âgées, le métabolisme est lent. Vous savez, même en France, il y a des gens qui vivent avec des cancers des années, des années, des années. Et donc, parfois sans soins d'ailleurs. Et donc, ils ont préféré au stress et au déracinement ce choix qui peut paraître paradoxal de rester dans la zone. Et vous savez ce qu'ils me disaient ? J'ai entendu ça plusieurs fois de plusieurs vieilles femmes qui me disaient « Ah, mais tu sais, moi je vis dans cette zone radioactive, je suis encore là, alors que tous mes voisins du village qui ont été relogés et évacués, ils sont tous déjà morts. »
Galia Kerman, vous racontez dans ce livre « Traverser de Tchernobyl » aux éditions Premier Parallèle que le site est évidemment interdit aux mineurs et pourtant, il y a une maman qui a essayé, qui a emmené sa fille. Comment elle a fait ?
Non, c'est même plus compliqué que ça. C'est pas qu'elle l'a amenée, elle a donné naissance à une fille. C'était une femme qui, au moment des faits, était âgée déjà de 46 ans. Et donc, elle pensait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Quand elle a vu son ventre grossir, elle n'a même pas compris que c'était une grossesse. Et le médecin, bon, ça dit quelque chose sur le niveau de la médecine là-bas. Le médecin lui a dit que c'était une tumeur. Et en fait, au bout de 9 mois de cette tumeur, il y avait une petite fille qui est née.
Et donc qui est née dans la zone.
Ah oui, oui, oui. Et vous savez, c'est assez extraordinaire parce que je connais cette histoire depuis très longtemps. Donc je l'ai décrite et même sur le site de Premier Parallèle, je crois, il y a parmi les photos que j'ai mises sur le site, il y a la photo de cette petite fille. Mais ensuite, l'histoire a été très compliquée parce qu'il est interdit de se trouver dans la zone aux enfants de moins de 18 ans. Donc, les autorités ont essayé de chasser la mère et l'enfant. La mère a fait un procès à l'État. Elle l'a gagné. Et la petite fille a grandi entre Tchernobyl et la ville qui se trouve en dehors de la zone où elle allait à l'école. Elle est toujours en vie, en bonne santé et très jolie.
Une décharge à ciel ouvert, Tchernobyl, qui fait le beurre des braconniers, sans foi ni loi. Si vous êtes curieux, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL. Le dimanche à Tchernobyl.
RTL.
C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle.
La curiosité est un vilain défaut. Tchernobyl. Respire encore, le ventre n'est pas encore mort.
Jusqu'à 22h.
Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl.
Sidonie Bonnec. Toto Thomas.
Cerveau irradié par du Tchernobyl.
C'est posé.
Ah oui, même les rappeurs sont inspirés par Tchernobyl. DJ Quiz, que j'avoue, je découvre grâce à André Facetta.
Et DJ Facetta.
Notre réalisateur, voilà, également, vous les avez reconnus. Renaud et Bachoum, il y a 30 ans, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, engendrant une catastrophe écologique sans précédent. Elle est encore classée, cette catastrophe, comme le pire accident nucléaire de l'histoire devant Fukushima. Galia Ackerman, vous nous racontez ce qu'est la vie quotidienne en fait des Russes, des Ukrainiens d'ailleurs, c'est en Ukraine qui vivent aujourd'hui encore dans cette zone. Il y a par exemple les veuves de liquidateurs. C'était qui les liquidateurs ?
Eh bien, c'était les civils et les militaires qui ont été mobilisés par le gouvernement soviétique pratiquement tout de suite après l'accident, après la catastrophe, pour enrayer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'était quand même la partie de l'idéologie soviétique de ne pas se reconnaître vaincu par une calamité quelconque, que ce soit une guerre ou l'atome, qu'on disait à l'époque. L'homme soviétique est plus fort que tout, et donc plus fort que l'atome. Et l'idée était non seulement de décontaminer la région autour de la centrale sinistrée, le site même, bien sûr, le site industriel de plusieurs kilomètres carrés, mais de remettre la centrale en marche. Et pour ce faire, on a mobilisé les soldats, et les civils, tous les ministères de l'Union soviétique, les grandes usines, devaient envoyer en mission les gens pour liquider. Et donc, ça s'appelait liquider les conséquences de la catastrophe.
Mais combien de personnes ont été concernées par...
En 5 ans, 1 million.
1 million de Russes, d'Ukrainiens, de Soviétiques
Gigantesque, de toutes les nationalités soviétiques, mais je pense qu'une bonne moitié, au moins, c'était vraiment les Ukrainiens, parce qu'ils étaient les plus proches.
Est-ce que ces liquidateurs ont survécu? Ou ils ont été, ils sont morts précocement de cancer, ils ont subi un vieillissement prématuré?
Il y a un peu de tout. On n'a pas de statistiques très fiables, tout simplement parce qu'à l'époque soviétique, il était interdit aux docteurs d'établir le lien entre la radiation et les maladies que développaient ces gens, d'une part, et d'autre part, il n'y avait pas de registre général de liquidateurs. Et une fois que l'Union soviétique s'est décomposée en plusieurs républiques, en plusieurs pays indépendants, donc chaque pays, même les pays qui n'avaient strictement rien à faire, à avoir avec cette affaire, comme, je ne sais pas, l'Ouzbékistan, eh bien, ils se sont retrouvés avec ces anciens liquidateurs, avec ces vétérans de Tchernobyl.
Et aucune info sur leur santé?
On pense que sur 1 million, il y a à peu près 100 000 qui sont déjà morts. Pas nécessairement tous des conséquences de Tchernobyl. Il y a probablement 200 à 300 000 de personnes très malades.
Alors Galia Ackermann, vous racontez l'histoire de Tchernobyl et notamment de ceux qui vivent encore dans la zone aujourd'hui dans un livre. Le titre c'est « Traverser Tchernobyl », livre qui est publié aux éditions Premier Parallèle. Alors vous nous racontez là l'histoire de ces liquidateurs, 1 million de personnes qui viennent de toutes les républiques soviétiques, et on se dit comment les habitants de Tchernobyl les ont perçus, comme des sauveurs ou alors comme des étrangers un peu malvenus?
Les habitants ont été évacués, donc il n'y avait personne pour les percevoir. C'est aussi simple que ça.
Oui.
Mais, par exemple, ces époux dont vous m'avez parlé, ce couple de...
Oui, ce couple.
De Nicolas et Valentina.
Valentina.
Et Nicolas.
Ils se sont plaints que les liquidateurs se sont comportés comme des brigands.
C'est-à-dire ils ont volé?
Qu'ils les ont volés, et j'ai appris plus tard par une autre dame liquidatrice, parce qu'il y avait aussi un peu de femmes, très rares, qui avaient même des cas de viol, parce qu'il y avait à peu près une femme pour 1000 hommes, et donc ces hommes, ils cherchaient à se distraire, ce n'était pas du tout une vie rose, tout ça. C'était pas que de l'héroïsme, comme dans chaque guerre, il y avait aussi des moments plutôt sales.
Galia Ackermann, vous avez fait de nombreux voyages à Tchernobyl, et vous avez pu rencontrer l'un des mafieux de Tchernobyl, il s'appelle Valera. Il se considère, ce sont vos mots, comme le maître de Tchernobyl. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vit de quoi?
Il vit du vol de métal contaminé à grande échelle, qui est revendu ensuite à des entreprises. Et donc, c'est tout un réseau de mafias qui exportent le métal de Tchernobyl.
Donc, ça veut dire que c'est du métal contaminé qui va s'intégrer dans des constructions qui ne le sont pas. Est-ce qu'il est dangereux, ce métal contaminé?
Mais bien sûr qu'il est dangereux. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des armatures dans un bâtiment qui seront contaminées. C'est comme ce que j'ai dit au sujet des meubles.
Du bois, oui, dont vous parliez tout à l'heure.
Ça peut aller dans le monde entier, c'est-à-dire en Europe, ça traverse les frontières?
Ça traverse les frontières parce que les contrôles de radiation ne sont pas systématiquement effectués. Et c'est vrai que c'était un épisode, je dirais, cocasse, parce que c'est intéressant de rencontrer un grand mafieux qui se dit maître de la zone, qui contrôle un grand trafic, qui fait un pique-nique au bord de la rivière de Pripyat avec des gardes du corps, qui ensuite me fait traverser la zone dans une Mercedes... dans la nuit, dans la, voyez, comme si on traversait la jungle. Bien sûr, mais c'est un sentiment fort, cette rencontre. Mais en même temps, c'est sûr qu'il fait quelque chose de très nocif.
Vous écoutez RTL.